confrontés à la question de l'obéissance et de la désobéissance, généralement en temps d'extrême violence, mais pas toujours comme on pourra le voir. L'étude du discours éducatif militaire français proposé par Julien Marie montre qu'au tournant du XXe siècle, s'affirme l'idée que l'armée et les chefs ont une fonction sociale éminente. Mais la mission principale demeure, à savoir, le maintien de la troupe en état de combat. Et dans cette optique, le discours qui s'élabore emprunte largement aux psychologues. Il tente de concilier, voire de réconcilier, les exigences traditionnelles de la discipline militaire et la nouvelle donne démocratique, républicaine, basée sur l'égalité et la liberté en cause. Le débat est rare de cette époque-là, entre les tenants de la tradition autoritaire et d'autres qui parient au contraire, sur une discipline intériorisée, conscientisée, volontaire et librement consentie. L'étude de la pensée militaire permet d'observer que pour faire obéir le soldat français, on compte de moins en moins sur la contrainte, de plus en plus sur les sentiments, principalement sur l'attachement au chef et aux camarades. Ce que l'on nomme la discipline affective. Le chef doit dorénavant acquérir sa légitimité en montrant l'exemple, en se montrant juste, attentif aux besoins de sa troupe. Par ailleurs, la doctrine militaire insère dorénavant la psychologie du soldat dans un jeu complexe de regards croisés, regard du chef, regard sur le chef, regard des copains sur soi, regard porté sur soi par soi-même, etc. Et tous ces regards croisés font une socialisation particulière dans laquelle chacun est un semblable et où le pouvoir des mots est d'autant plus fort que leur sens n'est pas très défini, comme le mot honneur, le mot patrie, discipline, solidarité. Ce sont autant d'idées et images qui, selon l'expression de Gustave Le Bon, non seulement peuvent se substituer l'une à l'autre, mais structurent le maillage moral contraignant qui en sert tout militaire. Toutefois, qu'advient-il lorsque le chef disparaît? Comment mobiliser un soldat isolé? Selon les penseurs militaires, on peut résoudre ce problème en appuyant la discipline affective sur une discipline citoyenne, raisonnée et volontaire. Mais voilà un équilibre particulièrement délicat à trouver entre un soldat automate et un citoyen soldat. Jusqu'où faut-il, jusqu'où peut-on responsabiliser le soldat? Alors ces questions, on les retrouve à travers la plupart des autres papiers, et notamment celui de Karine Lamarche, intitulé « Obéissance et désobéissance en Israël, l'objection de conscience en question ». Le contexte est celui-ci. Israël est un État démocratique, mais en guerre permanente depuis plus de 60 ans. La société israélienne est aussi une des sociétés les plus militarisées du monde, dans laquelle les enfants, garçons et filles, sont élevés dans le culte du soldat qui seront un jour. Une société dans laquelle le service militaire est aussi une porte d'accès à la société, au marché du travail, à la sphère politique, est aussi un facteur de reconnaissance et de légitimité. Et dans ce pays en guerre, la question de l'obéissance et de la désobéissance, et on le comprend bien, une question grave, je cite, « toute critique envers le pays est perçue comme une menace pour la cohésion de ses membres et le refus d'obéir aux ordres dictés par le gouvernement comme un acte de dissidence néfaste au corps social et national tout entier. » Jusqu'au début des années 60, les quatre refus de combattre dans cette armée restent peu nombreux et conservent un caractère individuel qui les rend finalement assez facilement gérables par l'armée. Mais dans ce domaine, comme dans bien d'autres pour Israël, la victoire de 1967 change la donne. Apparaît alors la notion de refus sélectif qui distingue la défense du pays et l'oppression d'un peuple occupé. Les protestations se transforment de plus en plus en protestations collectives. Il est observable aussi que ces dernières sont perçues comme autrement menaçantes pour l'armée, qui y répond d'ailleurs d'une façon beaucoup plus dure. 1982, l'invasion du Liban marque un nouveau tournant dans la désobéissance avec l'apparition d'un premier mouvement structuré du refus sélectif. Auparavant, les refus concernaient essentiellement des jeunes proches de la gauche antisioniste. Et cette gauche antisioniste était perçue comme radicale et assez marginalisée dans la société. Ceux de 1982 et des années suivantes sont au contraire le fait de jeunes venant d'horizons beaucoup plus divers. Leur refus, bien que toujours condamné par une majorité de la population, est devenu admissible, discutable. D'autant que de nombreux refusniks, c'est ainsi qu'on les appelle, ont déjà effectué leur service militaire et qu'un cinquième sont aussi des officiers. Ce mouvement n'a cessé de croître avec les deux intifadas de 1987 à 1993, date de la première intifada. En 6 ans, ce sont près de 200 soldats qui ont été emprisonnés pour avoir refusé de servir dans les territoires occupés. Lors de la seconde intifada, donc à partir de l'automne 2000, ce chiffre a été atteint en moins de 2 ans. Émergent aussi un certain nombre d'initiatives organisées et novatrices. Ainsi, en août 2001, 62 élèves de terminale suivent l'exemple des précédents groupes de lycéens objecteurs en envoyant une lettre ouverte au ministre, au Premier ministre Ariel Sharon de l'époque. Le pouvoir répond à cette initiative par des peines de prison, pour certains d'entre eux, mais globalement, ce mouvement lycéen est peu pris au sérieux par la population. Mais cette opinion publique évolue sensiblement lorsque ce sont 52 réservistes qui publient le 25 janvier 2002 une lettre dans le journal Haaretz pour annoncer leur opposition à la politique du gouvernement et leur volonté de refuser de servir dans les territoires occupés. Alors c'est ici que j'insisterai sur l'habileté tactique, mais est-ce seulement de l'habileté, nous verrons, de ces nouveaux refusniks qui mettent l'accent sur le patriotisme des signataires et leur identité militaire pour appuyer leur refus. Ce mouvement prend en effet le nom de « courage de refuser ». Il mobilise des symboles et un discours ostensiblement patriotique. Leur logo est ainsi une étoile de David aux couleurs du drapeau national. Leur slogan est, je cite, « refuser, c'est sioniste ». Après 8 mois, les premiers signataires sont rejoints par près de 500 autres. L'année suivante, c'est au tour de 27 pilotes de chasse de déclarer leur refus de participer aux éliminations ciblées dans les territoires. Ils en dénoncent l'illégalité. Donc vous voyez qu'on est bien loin là de la pétition lycéenne. Le fait aussi qu'il faille 7 ans à des pilotes pour obtenir leur brevet analyse les critiques qu'on pouvait lancer auparavant en termes de lâcheté. Ces refusniks sont en effet tous de valeureux soldats, ils appartiennent tous à des unités d'élite, et c'est pour cela que leur positionnement moral et symbolique a pu fissurer le mur de la condamnation sociale. La légalité des actions de l'armée dans les territoires fait aujourd'hui l'objet de débats en Israël. Leur action a un impact politique, et si elle a cet impact, c'est parce que ces hommes, ces refusniks, ont su ne pas franchir la ligne rouge du consensus israélien et ainsi ne pas s'isoler de l'opinion et de la population. Karine Lamarche fait également observer que la plupart des refusniks sont des descendants de la vieille élite israélienne ashkénaze, laïque, éduquée, qui appartiennent aux couches les plus aisées de la population. Et donc on peut légitimement penser que le coût de leur désobéissance est certainement bien moindre qu'elle ne l'est pour un séfarade ou un druze moins privilégié socialement. Alors cette question du coût de la désobéissance est également présente dans le papier de Philippe Garraud qui examine les relations des généraux allemands avec le nazisme pendant les années donc 30 et 40. Depuis 1945, deux interprétations se sont succédées à propos de ces généraux allemands et d'Wehrmacht en général. La première fut longtemps apologétique, soutenue par les discours justificateurs de nombreux acteurs autorisés, par eux-mêmes en particulier, et par le contexte de la guerre froide. Aujourd'hui, domine une interprétation inverse, privilégiant l'adhésion idéologique au nazisme, c'est notamment la thèse de l'historien israélien Omer Bartov. Ces deux interprétations opposées ont en commun d'être largement monoposales et de rejouer la grande pièce devenue un classique ici de cette fausse alternative entre contrainte et consentement, bien repérée par Antoine Pro. Aussi, Philippe Garraud propose-t-il une troisième voie, celle du raisonnement en termes de ces autres facteurs, pour sortir d'un raisonnement historique binaire, paresseux. C'est pourquoi son papier sur les relations des généraux allemands avec le nazisme est sous-titré entre adhésion, mise au pas, conformisme et prise de distance. Un examen attentif du corps social des officiers généraux permet de repérer différents éléments d'une adhésion fondée sur une large communauté de valeurs et d'intérêts. Conservatisme profond, anticommunisme virulent, antilibéralisme, rejet de Weimar, antisémitisme, attachement à des valeurs patriotiques, nationales et nationalistes, et d'unité nationale, bref, autant de valeurs qui sont amplement mobilisées, instrumentalisées par le régime nazi. Par ailleurs, les généraux adhèrent largement à la politique militaire du régime et à ses objectifs, en premier chef, la révision du traité de Versailles. L'armée voit ainsi favorablement la politique de réarmement, la réoccupation de la rive gauche du Rhin, etc. Et pas uniquement pour des raisons idéologiques ou politiques. Les cadres de l'armée sont favorables à la hausse des effectifs qui leur ouvre autant d'opportunités de carrière et de promotion, sans compter les avantages matériels et symboliques dont le régime gratifie ses officiers. Au total, ces facteurs d'ordre professionnel et matériel lient ensemble les généraux au régime nazi, héritaires en personne, sans nécessiter obligatoirement une entière adhésion idéologique. Mais cela ne suffit pas à expliquer pourquoi l'armée allemande s'est transformée en institution criminelle de masse. Pour essayer de comprendre cette transformation, il est nécessaire de prendre en compte d'autres facteurs, et en premier lieu, la mise au pas organisationnelle et fonctionnelle de l'armée. Les relations entre l'armée et le pouvoir politique subissent en effet une redéfinition radicale, prenant la forme d'une subordination croissante de l'institution militaire au régime nazi et à Hitler en personne, qui joue, on le sait bien, un rôle de plus en plus prépondérant, non seulement dans la conduite de la guerre, mais aussi dans les opérations sur le terrain, notamment à l'Est. Par ailleurs, Hitler renouvelle en permanence, et de façon croissante, le haut commandement. Chaque réserve, chaque contestation entraîne aussitôt mise à la retraite ou relève de commandement temporaire ou définitif. En 1938 déjà, 12 généraux sont ainsi placés à la retraite parce qu'ils avaient émis des réserves sur les plans visant la Tchécoslovaquie. Et pendant la grande crise du commandement allemand de l'hiver 41-42, 35 généraux ont été limogés. À la fin de la guerre, seuls 5 des 23 maréchaux promus au cours du conflit sont encore en activité. C'est dire s'il faut tenir compte du coût croissant de l'opposition et de la désobéissance. Un coût social, un coût matériel, mais aussi un coût physique. Durant la Seconde Guerre mondiale, on estime qu'à peu près 20 000 militaires allemands ont été condamnés à mort et exécutés, pour la plupart en 43-44, pour refus d'obéissance, démoralisation de l'armée, tentative de désertion, trahison. Et suite au complot du 20 juillet 1944, près de 200 officiers ont été exécutés, on sait que le maréchal Rommel lui-même a été suicidé. L'ampleur de la répression dit en creux, sans doute, une opposition militaire beaucoup plus précoce, qu'on ne le dit souvent, et surtout plus large qu'affirmait généralement. Au travers de ce papier, il apparaît donc que l'adhésion idéologique n'est pas toujours une condition nécessaire à une coopération active aux entreprises, notamment aux entreprises génocidaires. Nous y reviendrons tout à l'heure avec le cas du génocide rwandais. Mais ne quittons pas la Seconde Guerre mondiale. Florent Braillard revient sur le cas à bien des égards fascinants de Kurt Gerstein, cet homme qui, selon son propre témoignage, s'engagea dans la SS, au cœur donc de la machine génocidaire nazie, pour témoigner, prévenir et saboter autant que possible l'entreprise d'extermination. Au début des années 60, rappelle Florent, au moment où Alain Arendt forgeait le concept de banalité du mal, lors du procès d'Eichmann en 1961, Sol Friedlander, biographe de Gerstein, plaçait le destin singulier de ce personnage sous le signe de l'ambiguïté du bien, banalité du mal, ambiguïté du bien. Chacun à leur manière, Arendt et Friedlander, ont contribué à mettre de la complexité dans une histoire dont on voulait croire que le bourreau y était à tout coup démoniaque et le résistant toujours insoupçonnable. Aussi, le cas de Gerstein nous intéresse-t-il en ce qu'il nous invite à considérer la complexité de l'histoire des hommes. Qu'on a déjà bien vu hier. Or, Je cite Florent, le choix dans lequel s'est mis Gerstein était le suivant, l'obéissance en sachant qu'elle le transformerait en meurtrier, la désobéissance en sachant qu'elle l'empêcherait de soulager la souffrance des victimes dans leur dernier instant, ou le suicide. Gerstein choisit d'obéir. Il voyait dans l'obéissance l'occasion de devenir l'agent infiltré de l'Église confessante, le témoin, le porteur de nouvelles du génocide qu'il se targuait d'être et qu'il fut d'ailleurs. Mais aussi parce qu'il estimait être le seul à pouvoir saboter l'ordre d'emploi du gaz yttrium-B, alors doté d'un irritant qui augmentait considérablement le supplice des personnes soumises au gazage. Alors, la narration de l'histoire pourrait s'arrêter là. Et Florent nous fait observer que un examen attentif des différentes séquences de la biographie de Gerstein laisse apparaître un certain nombre d'éléments qui compliquent singulièrement l'interprétation du cas Gerstein. Il ressort en effet qu'exclu du parti nazi en 1936, arrêté plusieurs fois pour son opposition à la politique religieuse du régime, et détenu pendant quelques semaines dans un camp de concentration, Gerstein dut donner des gages au régime pour obtenir sa réhabilitation sociale et politique. Contrairement à ses dires également, son engagement dans la SS n'a pas succédé la découverte traumatisante de l'euthanasie de sa belle-sœur, mais l'a précédé. Enfin, son héroïsme, entre guillemets, a en outre dépendu en partie d'un coup de dé, puisqu'il aurait pu tout aussi bien, puisqu'il en a fait la demande, être affecté dans un autre service, dans la Wehrmacht par exemple, ou passer la guerre à enseigner. En effectuant cet examen troublant mais nécessaire, que je n'ai fait ici qu'effleurer, dont Florent Braillard a procédé à ce qu'il appelle un ralentissement de la narration historique. Selon lui, la désobéissance et plus encore la résistance n'est que rarement le fruit d'une impulsion à laquelle l'auteur céderait en un instant sans même réfléchir, et qu'au contraire, elle suppose un intense examen, aussi bref fut-il, au cours duquel sont pesés le pour et le contre. C'est sans doute à ce bref mais intense examen auquel les policiers parisiens se sont soumis en ce mois d'août 1944, au cours duquel ils se sont transformés en résistants. Une mue d'autant plus spectaculaire qu'elle s'est effectuée en quelques heures. Une mue qui ne fut pas feinte non plus, puisque 160 policiers tout de même furent tués ou fusillés au moment de la libération de Paris. Alors c'est ce basculement que Christian Chevandier questionne dans son papier intitulé « Cesser d'obéir et maintenir l'ordre, les policiers parisiens en août 1944 ». Christian Chevandier insiste dès son introduction sur la caractéristique de ce corps, à savoir l'inscription au plus fort de son identité de l'obéissance comme vertu fondamentale. Ce même principe d'obéissance, explique Christian, avait amené la police, au cours des 4 années précédentes, à se mettre au service de l'occupant dans le cadre de la collaboration d'État. Alors, lorsqu'ils changent de camp, les policiers désobéissent-ils véritablement et à quelle fin? Je fais un rapide exposé des faits. Un mot d'ordre de grève générale est lancé à la demande du commandant régional des SSI, Rol Tanguy, pour le 15 août 1944. Il est à noter que les principales organisations de la résistance de la police, proches des communistes, se joignent au mouvement sur un mode pour le moins impératif et explicite, puisqu'il est dit, les policiers qui n'obéiraient pas au présent ordre de grève seraient considérés comme des traîtres et des collaborateurs. Autrement dit, dans le cas des policiers parisiens, désobéir, c'est obéir. Dès lors, pour les policiers parisiens, nous dit Christian, cesser d'obéir, c'est adopter le même comportement que les autres travailleurs de l'agglomération. Du 15 août au 19, les commissaires de police tentent en vain de faire reprendre le travail aux policiers lorsqu'ils tombent. Le 19 au matin à 8h, des centaines de policiers se rassemblent à la préfecture de Paris. Le signal de l'insurrection est donné et à 11h15, le préfet de police Bussière est arrêté par ses subordonnés. Et le nouveau préfet, nommé par la France libre, prend ses fonctions. Ainsi, au total, la désobéissance collective, cette transgression suprême du métier de policier, n'a duré qu'un peu plus de 3 heures. Christian Chevandier fait observer que les policiers devenus résistants, et particulièrement ceux rassemblés à la préfecture, près de 2000 hommes, ont tenu à combattre en corps, en tenue de policiers, et à défendre aussi leur territoire, la préfecture. lieu de pouvoir alors qu'ils avaient reçu l'ordre de l'évacuer. De même, les policiers ont pour l'essentiel fait usage d'armes de policiers. Ils ont éprouvé, semble-t-il, une réticence à utiliser les cocktails Molotov, alors qu'on sait qu'ils sont très utiles contre les blindés. Les policiers préfèrent aussi défendre des barrages que des barricades. Le sens des mots est important. Bref, leur désobéissance se fait dans la discipline et en tant que corps constitué. La dimension éminemment professionnelle de l'insurrection des policiers parisiens est patente dans le papier de Christian. Alors la question n'est pas tant, selon Christian, pourquoi ces hommes ont-ils désobéi en août 44, que pourquoi ont-ils auparavant obéi? Cette question en ouvre immédiatement une autre. Jusqu'à quel point ont-ils obéi? Cette remarque interrogative peut être croisée avec celle de Yann Kershaw, citée par Philippe Garraud, et qui propose une échelle d'attitude et de comportement depuis l'adhésion, consentement, collaboration, jusqu'au désaccord, opposition, résistance. Et comme le suggère effectivement Philippe, il serait sans doute possible de complexifier encore cette échelle en prenant en considération le caractère partiel ou plus systématique de ces attitudes. En abordant la question de la désobéissance militaire durant la guerre d'Algérie, à partir du premier acte, celui d'Alban Liechti, Vanessa Conoscioni propose une grille de lecture en termes d'action collective et de structure d'opportunité. Elle prône le dégagement des conditions d'émergence d'un mouvement de désobéissance, ici celui des réfractaires communistes, par l'étude des facilitations environnementales, par l'étude des acteurs et par une mise à jour des contraintes contextuelles et politiques pesant sur ce type d'engagement. Les structures d'opportunités politiques sont largement du ressort, c'était observé, des gouvernants. Or, l'Algérie, c'est la France, telle est la formule qui illustre l'environnement archi-dominant des premières années de la guerre d'Algérie. Le pouvoir recourt aux deux formes classiques du traitement de la désobéissance, la répression par le droit, la répression par le discours politique ou la propagande. La répression impose, là aussi, un coût au refus d'obéissance et constitue bien une incitation négative à l'action collective. On observe d'ailleurs que la stratégie déployée par Liechti est tout sauf une stratégie suicidaire, mais tant au contraire d'anticiper le coût de sa désobéissance, ne serait-ce que par l'envoi d'une lettre ouverte au président de la République. Bref, il essaye de limiter la facture de sa désobéissance. La référence aux travaux de Mario Pedretti, prolongeant ceux de Douglas Gallard et Sidney Taro sur les mouvements non violents, travaux qui montrent en quoi les acteurs de désobéissance, les actions des désobéissants sont des mobilisations sous contrainte, ces travaux, je crois, intéresseront plus d'un d'entre nous. De telles mobilisations transgressent les lois en vigueur, mais elles se heurtent aussi au travail politique des entrepreneurs de morale, par les milieux politiques de la presse, qui tentent tous de délégitimer, voire de corriger les désobéissants. Il est rappelé aussi, dans ce texte, que la longue intériorisation du devoir de défense par le service militaire facilite sans doute le départ en Algérie. S'y surajoute le poids du consensus de la classe politique et le rôle amplificateur et stabilisateur de la plus large part de la presse. Au travers du cas d'Alban Liechti et des autres désobéissances communistes, ce qui est posé, c'est la question de la mobilisation et de la reconversion du capital militant dans ce contexte spécifique qui est celui d'un refus de partir à la guerre. La connaissance de la trajectoire biographique de Liechti permet là aussi d'inscrire son geste dans le capital militant accumulé pendant les luttes du PCF contre la guerre d'Algérie. La rhétorique utilisée par Liechti, la trentaine de militants communistes qui limite entre 57 et 59, possède une structure qui, à certains égards, est à rapprocher du discours des réfugiés israéliens de dernière période. Elle dénonce en effet une guerre qui serait contraire à la Constitution française, aux valeurs de la France ou encore aux valeurs de l'armée. Mais le parallèle avec les Israéliens s'arrête là, car lorsque le geste de Liechti intervient en juillet 56, pendant plusieurs mois, ce dernier est seul, isolé, ignoré même de la presse du PC, alors empêtré dans sa stratégie d'union de la gauche, ils ont vote récent des pouvoirs spéciaux. Alors c'est là que Vanessa fait intervenir la notion si intéressante de fenêtre d'opportunité. À partir de 1957, d'autres refus, d'autres désobéissances surgissent. Or, ce n'est pas totalement un hasard. 1957, c'est l'année des grandes affaires, l'année des procès, l'année des condamnations à mort, l'année de la dénonciation de la torture dans la presse et du basculement d'un certain nombre d'intellectuels dans la dénonciation de cette guerre. Alors, profitant du trouble de l'opinion, les insoumis vont dès lors pouvoir bénéficier d'une plus grande présence dans l'espace public. En outre, l'apparition d'acteurs ou de groupes revendiquant pleinement la désobéissance, ayant la capacité à créer des événements médiatiques, entrouvrent la fenêtre d'opportunité. Il n'est pas indifférent que 34 des 43 insoumis durant la guerre soient des communistes. Certains d'entre eux sont très liés au milieu dirigeant du PC, qui dès lors ne peut plus ignorer ce mouvement. Pour autant, s'il rend visible le mouvement, le Parti communiste français ne va pas jusqu'à prôner l'insoumission. Cette attitude ambiguë va d'ailleurs conduire certains jeunes et intellectuels communistes à rompre avec leur parti. En outre, d'autres jeunes ont contesté la validité du choix de l'insoumission. Et le débat va se focaliser sur deux autres formes de désobéissance pendant la guerre d'Algérie. La désertion d'une part, l'aide au FLN d'autre part. Aussi, bien que prédisposés par leur militantisme passé, leur insertion dans les milieux de la gauche communiste à une mobilisation contre la guerre, les insoumis communistes n'ont pu s'organiser et ils ont subi la plupart des contraintes politiques et contextuelles engendrées par la guerre d'Algérie. Sanctions militaires, emprisonnement, indifférence ou indignation d'une grande partie des Français convaincus de l'identité française de l'Algérie, insoutien du bout des lèvres de leur parti, enfin, l'hostilité pour leur mode d'engagement de la part d'autres insoumis plus organisés. Même si nous descendons brutalement de plusieurs barreaux la longue échelle de la désobéissance, il semble nécessaire de croiser tout de suite le texte de Vanessa avec celui de François Buton, intitulé « Les disponibles protestent pendant la guerre d'Algérie 1955-56 ». Précisons que les disponibles, ce sont ces rappelés sous les drapeaux, des hommes qui ont déjà satisfait leurs obligations militaires, libérés depuis 18 mois, mais restés disponibles durant les 3 ans qui suivent leur service. Alors cela concerne de 60 à 70 000 hommes. Or, de nombreuses manifestations ont eu lieu entre le moment de leur rassemblement dans les gares ou les casernes et leur embarquement à Marseille. Refus de monter dans les trains, retard infligé au convoi, des cris, des bousculades avec les forces de l'ordre, des dégradations de trains, de gares, et plus rarement des tracts, des pétitions, des réunions publiques. Bref, autant d'actions collectives, puisque menées à plusieurs. Dans ce texte, qui est franchement un véritable discours de la méthode, François Buton revient sur ces manifestations et propose d'explorer plusieurs pistes. 1. Examiner la gestion des protestations par le commandement militaire. 2. Interroger le moment du rappel. 3. Questionner la composition sociale des rappelés. Examiner leur trajectoire sociale afin d'approcher les savoirs pratiques en matière de contestation notamment, que celles-ci ont pu leur fournir. François Buton aborde la délicate question du chiffrage et souligne la dépendance de l'historien vis-à-vis des sources. Il souligne notamment que la presse a le gros défaut de reproduire la sélection médiatique des faits sociaux, selon des critères notamment quantitatifs, l'ampleur des désordres, l'implication d'un parti politique. Délicate est aussi la question de la qualification de ces manifestations. S'agit-il de protestation, de contestation, d'agitation, d'insoumission, de révolte, de mutinerie? Que vaut l'idée d'homogénéité des actions collectives et disponibles? Il n'y a d'ailleurs pas un mouvement des rappelés. Celui de 1955 diffère de celui de 1956, ne serait-ce que parce que le second bénéficie d'expérience du précédent, et donc d'un précédent, d'une profondeur temporelle que ne possède pas le premier. Par ailleurs, toutes les actions des disponibles sont-elles équivalentes, donc quantifiables, additionnables? Après François Braillard et Philippe Garbeau, François Buton appelle aussi à ne pas prendre au pied de la lettre les discours des acteurs sociaux. Les motifs invoqués ne sont pas forcément les ressorts de l'action menée. Il appelle à se méfier du raisonnement naturel qui déduit l'existence de croyances de l'observation des comportements. Et il a bien raison de dire qu'il n'est pas besoin d'être motivé pour faire le chalut, le cirque ou mettre le bordel. Ces hommes ont ceci de particulier qu'ils ont déjà fait l'expérience de l'armée. Ils en sortent. À ce titre, ils entretiennent un rapport spécifique à l'institution militaire qu'il convient effectivement de prendre en compte. À l'évidence aussi, les disponibles sont en très grande majorité des hommes des milieux populaires, ouvriers et paysans, ainsi que des petits commerçants et artisans. Cette donnée permet d'ouvrir des pistes quant à la signification des actions collectives de ces hommes. En référence aux travaux de Richard Hogarth, François pose cette question. Dans quelle mesure une désobéissance collective est disponible dans les limites d'une obéissance fondamentale, puisqu'ils partent quand même, procède-t-elle d'un ajustement à une situation structurelle de domination sociale? Est émise l'hypothèse qu'on ne peut pas exclure que se rejouent dans les actions collectives et disponibles tout ce que les classes sociales populaires sont habituées à opposer à une contrainte à laquelle elles peuvent difficilement échapper. La résignation des disponibles, comme le grand fichisme relevé par Hogarth, renvoie dans une certaine mesure aux fameux « cherche pas à comprendre des poilus » de 14-18. Prenant un contre-pied une historiographie qui croit pouvoir se dispenser d'auditionner les témoins, une utopie dénoncée aussi par Florent, François Buton souligne qu'au total, les témoignages les rappelés nuancent les affirmations pressées et empressées de certains historiens sur le sentiment impérieux du devoir patriotique qui aurait dicté l'obéissance des disponibles. Il semble au contraire que la conscience contraignante de l'absence d'alternative autre que la désertion, fort coûteuse au demeurant, ait joué un rôle moteur. Ce qui domine, c'est la résignation face aux promesses contenues du Front républicain et l'absence d'un soutien de la population. Nous ne quittons pas la guerre d'Algérie avec le papier de Dalila Aït El Touli intitulé « Obéissance et désobéissance des civils algériens pendant la guerre d'Algérie ». Mais nous abordons un contexte tout à fait singulier qui a jusqu'ici peu attiré l'attention des historiens. Dalila nous propose ici de réfléchir à une situation intenable qui a été faite aux civils algériens qui, de fait, durant cet affrontement pluridimensionnel, guerre coloniale franco-algérienne, guerre civile franco-française, guerre civile algéro-algérienne, se sont trouvés pris entre deux légalités, écartelés entre deux légitimités, cibles de deux violences, placés dans ce dilemme comprenant kafkaïen, obéir, c'était désobéir, et inversement. Pour aborder cette situation particulière, Dalila freine aussi à sa manière la narration historique. Elle croit nécessaire de l'inscrire dans une séquence plus longue, celle de l'Algérie coloniale, dans laquelle se côtoient depuis la conquête de 1830 deux ordres juridiques et politiques. Les populations musulmanes étant dotées d'une nationalité sans citoyenneté, tout en restant régies par la loi musulmane qui les exclut du code civil français. Or, durant cette guerre, la France tourna progressivement le dos aux principes et aux lois de la justice française elle-même. La justice fut instrumentalisée par le pouvoir politique et l'armée dans sa guerre menée contre l'ALN. Internement infralégaux, torture, exécution sommaire, déplacements et regroupements forcés de masse sont devenus des armes qui frappèrent avant tout les civils algériens, sommés de choisir leur camp par chacun des belligérants. Dès 1955, la France réaffirma d'ailleurs le principe de la responsabilité collective dans ses territoires, alors qu'elle l'avait abandonné en 1944. Bref, l'état de droit se dilue dans la guerre en Algérie. Dans ce contexte, le FLN a beau jeu de dénoncer ce conflit de plus en plus évident entre les discours sur les valeurs de la République française et les pratiques des forces de l'ordre et de l'armée. Désobéir aux Français devient alors légitime. Enfreindre la loi française, c'est aux yeux du FLN une manière de réparer l'injustice subie depuis plus d'un siècle de présence française. Désobéir aux Français, c'est accomplir la révolution. Mais en définitive, la population algérienne est alors soumise à une double terreur. L'ALN ne laisse en effet le choix qu'entre l'engagement dans ses rangs et la trahison. Le massacre de Médouza du 28-29 mai 1957, où 374 Algériens ont été assassinés pour leur appartenance au MNA, témoigne de cette radicalité. En même temps, comprenant que la terreur ne suffirait pas à gagner la population à la cause de l'indépendance, l'ALN se donne d'un contre-système juridique et d'un contre-système social destiné par exemple à venir en aide aux familles de prisonniers ou tués. Bref, dans cette gigantesque prise d'otages croisée, les populations algériennes n'ont le choix qu'entre soumission, attentisme et adhésion. et sans qu'elle puisse évaluer quel était le bon choix ou le moins pire. À première vue, pas grand-chose rattache cette situation avec celle évoquée par Tony Vidal à propos du Rwanda dans son papier intitulé « Grand tueur et petit tueur, la question de l'obéissance dans le génocide des Rwandais Tutsis. Ici, pas de guerre, ici, pas de bataille. Ici est posée la question de l'obéissance ou de la désobéissance de civils à l'ordre de tuer des hommes, des femmes et des enfants dans un contexte tout à fait singulier, dans lequel les tueurs sont pour l'essentiel des civils enrôlés par d'autres civils qui se sont auto-institués organisateurs de massacres. D'autant enfin qu'au Rwanda, les tueurs n'étaient nullement menacés par ceux qu'ils tuaient. Alors, concernant le Rwanda, deux interprétations aussi s'affrontent. Pour la première, l'assassinat du président Habyarimana le 6 avril 1994 aurait provoqué la fureur populaire, entraîné une vengeance du peuple que l'État aurait été impuissant à endiguer. L'autre thèse soutient au contraire que le génocide avait été planifié bien avant 1994 au plus haut niveau d'État. En fait, comme le montre le papier de Colin Vidal, aucune de ces deux explications globales et antinomiques ne rend compte réellement des faits. Et l'on retrouve ici une interprétation complexe mobilisant un faisceau de facteurs. Tout d'abord, la mobilisation pour le massacre systématique des Tutsis, résultat d'un processus politique engagé dès le 6 avril, au niveau national et au niveau local, par des acteurs qui firent du projet génocidaire l'instrument de leurs ambitions. Des commandements de tuerie se mirent en place à mesure des prises de pouvoir successives, tant au niveau central que local. À ce processus s'est ajoutée l'instrumentalisation d'attentats, tant contre l'avion du président. S'est surajoutée la colère et la peur à l'égard du FPR. L'amalgame incessant entre ce mouvement et les Tutsis de l'intérieur depuis l'attaque d'octobre 1990, car, et c'est un autre oubli, de nombreux interprètes du génocide rwandais, le pays est quasiment en guerre civile depuis 1990. En plus de ces éléments, la faible présence onusienne, jointe au silence assourdissant des représentations étrangères, a tenu grande ouverte une redoutable fenêtre d'opportunité. Cependant, l'extermination des Tutsis était aussi bien rejetée par quelques autorités civiles et militaires, mais aussi par d'importantes fractions de la population Hutu. Les promoteurs du génocide durent briser, dès dans les premiers jours, un certain nombre de résistances et recruter assez de tueurs pour que le plus grand nombre de victimes soient exécutées dans les 6 premières semaines. Autrement dit, la question centrale ici, c'est celle de l'embrigadement d'individus ordinaires que rien ne prédestinait à devenir des tueurs du jour au lendemain. Si à Kigali, le système génocidaire se fonda sur la capacité meurtrière de milices associées à des unités militaires, il en est tout autrement dans les zones rurales, où s'est d'ailleurs déroulé l'essentiel du drame. Là, les préfectures, des communes, ont d'abord résisté au mot d'ordre génocidaire. Et le pouvoir intérimaire a dû alors consolider d'abord, dans un premier temps, son pouvoir, destituer un certain nombre de préfets, modifier les conseils municipaux récalcitrants, changer l'état-major de l'armée, et c'est pour cela que le basculement des différentes préfectures et communes dans le génocide s'est échelonné entre le 7 et le 23 avril. Au niveau communal, les mobilisations ont été réalisées par des élites intermédiaires, notables locaux, qui se sont emparés du pouvoir. Et globalement, on retrouve des logiques semblables partout. Des agents très divers, exerçant ou non des responsabilités officielles, qui tentent de s'imposer à la tête des tueries et de faire reconnaître leur pouvoir dans le groupe des leaders du génocide. Tous ceux qui résistent sont éliminés physiquement. Se constitue une multitude de postes de commandement génocidaire qui n'étaient pas nécessairement articulés entre eux. Ils n'avaient pas tous la même capacité d'action, mais tous concourent à l'extermination. Et c'est cet ensemble qui a donné après coup l'impression d'une planification antérieure à l'attentat. Alors, qui étaient les génocidaires? D'après l'enquête de Scott Strauss, il y aurait eu environ 175 000 à 210 000 participants, ce qui représente à peu près 14 à 17% de la population masculine Hutu, 7 à 8% de la population active âgée de 18 à 54 ans. Il s'agit donc d'une minorité, mais d'une minorité importante. L'enquête portant sur leur motivation laisse apparaître en premier rang la coercition, la contrainte, pour 64%, liée à l'obéissance à la loi, près de 13%. La guerre entre Hutu et Tutsi, 22%. L'envie de venger l'attentat, 5% à peine. A noter que le croisement de nombreux témoignages désigne effectivement le poids déterminant de la pression du groupe Hutu sur les individus, notamment au moment du déclenchement des attaques. Il est parfois évident que si la prise du pouvoir avait été la suite de plusieurs ministres à Kigali, la menace pour l'homme ordinaire était bien réelle. D'après Strauss encore, 75% des participants, 71% des participants n'ont pas tué eux-mêmes. 20% ont tué une fois, 5% entre 2 et 4 fois, et 1,3% ont tué plus de 5 personnes. Et seulement 1,3% sont identifiés comme leaders de massacre. Finalement, étant donné la violence coercitive à l'œuvre, la question n'est pas tant pourquoi il y a eu autant de génocidaires, mais pourquoi les génocidaires n'ont-ils pas été plus nombreux? Pourquoi la majorité n'a pas participé? Après ces nombreuses questions réflexives entamées avec Julien Marie concernant les empreintes des militaires à la psychologie sociale à la fin du XIXe siècle, le papier de Sophie Richardot, intitulé « L'apport de la psychologie sociale à la question de l'obéissance » est particulièrement bienvenu. En effet, la question de l'obéissance et de la désobéissance a fait l'objet de multiples travaux et discussions en psychologie sociale depuis 4 décennies, des travaux superbement ignorés par les historiens, à l'exception peut-être de ceux de Stanley Milgram et Zimbardo, sur lesquels s'est notamment appuyé Christopher Browning dans son étude du 101e bataillon de police allemand employé dans les tueries de juifs en Pologne. Browning a souligné que parmi d'autres facteurs, tels que la propagande antisémite et la déshumanisation des victimes, l'importance du conformisme, des pressions exercées par les pairs et de la soumission à l'autorité, facteurs précisément mis en évidence par Milgram, tous ces facteurs permettaient de rendre compte du comportement des agents du génocide. À cette pluralité de facteurs, on sait que Jonah Goldhagen a opposé avec une grande virulence et un grand succès public une thèse largement monocausale, mettant l'accent sur les convictions antisémites des Allemands devenus sous sa plume autant de bourreaux volontaires de Hitler. On peut relire sur ce sujet l'article de Nicolas Mario qui est en ligne sur le site du CRI www. Pour l'heure, Sophie Richardot fait pour nous le point sur les principaux travaux de psychologie sociale portant sur l'obéissance à l'autorité, ceux de Milgram notamment, ainsi que sur les débats qu'ils ont suscités, en s'interrogeant sur la capacité de leurs conclusions à être transposées pour expliquer le comportement des agents de la Shoah. Au total, et pardon pour ce raccourci vraiment grossier, si la thèse de Milgram sur la soumission à l'autorité ne constitue pas à elle seule une théorie explicative de la destruction des Juifs d'Europe, elle permet néanmoins de mieux comprendre comment, dans certains contextes, des hommes ordinaires ont pu commettre des massacres. Des auteurs comme Kelvin et Hamilton parlent de crimes d'obéissance pour désigner, par exemple, des tueries comme celle de Miley au Vietnam, en insistant sur le rôle de l'autorisation. Pour eux, les subordonnés n'auraient pas entrepris l'action de tuer sans autorisation, soit parce qu'ils n'auraient pas voulu l'effectuer, soit parce qu'ils ne se seraient pas sentis libres de le faire. La notion de crime d'obéissance montre ainsi l'importance de la situation d'autorité, sans évacuer pour autant la haine éventuelle que les tueurs peuvent éprouver envers leurs victimes, les intérêts personnels des tueurs, etc. Cette notion permet aussi de considérer que le groupe des subordonnés n'est pas homogène. Certains ont pu effectuer le crime à contre-cœur, d'autres avec zèle. Entre ces deux extrêmes s'inscrivent sans doute beaucoup d'individus. En outre, des sous-groupes peuvent se constituer en fonction de leur motivation à tuer ou ne pas tuer. Alors, et précisément parce que l'ensemble du groupe ne possède peut-être pas les mêmes normes, la question du conformisme et de l'obéissance est à reconsidérer à l'échelle de ces sous-groupes. Dans ceux-ci, le conformisme peut en effet jouer dans le sens de l'acceptation du crime ou au contraire de son rejet. Au total, ces travaux nous invitent aussi à aborder l'obéissance, et particulièrement l'obéissance jusqu'au crime, comme un processus fragmentaire doté d'une amorce, le premier geste d'obéissance et d'acceptation, le premier engagement, qui entraîne à sa suite d'autres gestes qui progressivement peuvent aller jusqu'à placer les hommes dans un comportement criminel. Ce qui fait persister le sujet dans sa conduite, et notamment qu'il peut juger insupportable s'il venait à s'arrêter, l'idée de considérer que tout ce qu'il a fait jusqu'à présent est mal. Refuser d'obéir le conduirait à se déjuger à ses propres yeux. Par contre, le fait de continuer le rassure sur le bien fondé de sa conduite antérieure. Alors cette approche permet également de mieux comprendre l'amorce d'un processus de conversion dans lequel des individus simplement obéissants peuvent finir par devenir des bourreaux volontaires. Au total, ces recherches sur l'obéissance à l'autorité montrent que le sentiment d'obligation n'est pas nécessairement lié à la contrainte objective, que la haine de l'autre n'est pas nécessaire pour l'agresser, que la signification de l'action n'est pas nécessairement établie par ceux qui la commettent, que la persistance comportementale n'est pas un signe d'adhésion, que l'accomplissement d'actes odieux n'entraîne pas nécessairement de culpabilité, qu'il peut être plus facile d'obéir à des ordres immoraux que de désobéir à l'autorité. Alors j'en ai terminé en 10 secondes. Trop souvent, enfin, je vais terminer juste en mettant l'accent sur deux ou trois points qui me semblent importants. Trop souvent, d'une part, les historiens cherchent le sens des protestations collectives dans leurs résultats, comme si l'examen du résultat permettait d'en déduire mécaniquement la portée politique. Or, tous les papiers que j'ai observés, que j'ai examinés, montrent qu'il n'en est rien. Tous ces papiers nous invitent à affronter la complexité pour mieux la déconstruire, étape préalable à tout essai d'interprétation. Tous ces papiers appellent aussi à sortir des fausses alternatives, à sortir d'une recherche historique déclinée en mode binaire, et à échapper à ces figures prétendument imposées, consentement, contrainte, obéissant, désobéissant, obéissant, défaitiste, bon soldat, lutin, patriote, pacifiste, patriote, prêtre. Ces regards croisés appellent aussi à échapper à une narration paresseuse du passé, une narration arrêtée sur l'événement traité, une narration en mode monocausal, finalement aussi simpliste qu'inopérante. Je vous remercie.